Canus Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans maxis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller ? Ouin ouin ! Mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
Place n'était pas là, que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, ne va me battre pour changer tout ça.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est le lundi 9 mars. Et on va lancer tout de suite, comme on n'est pas en avance, on va lancer tout de suite les titres.
Oui, alors à l'international, on va parler de la suppression du permis pour les trans aux USA. Ensuite, on ira en Iran où on va parler du nouveau guide suprême et aussi des bombardements qui continuent. On parlera également de la nouvelle flottille qui a été arrêtée en Tunisie en direction de la Palestine. Et puis, on finira par parler de la Colombie.
Au local, parce qu'on n'avait pas envie de parler de national aujourd'hui, on écoutera un petit reportage, un micro pancarte de la manif du 8 mars d'hier. On parlera d'une grève au lycée Samba à Vénissieux et de la manif antiraciste et antifasciste qui se prépare le 14 mars.
Et puis pour finir notre dossier, nous avons une invitée du collectif Solidarité entre femmes à la rue. Mais d'abord, notre rubrique, ça s'est passé en...
9 mars 1883, dans un moment de crise économique qui secoue la fin du 19e siècle en Europe, le milieu artisan et ouvrier appauvri se mobilise en France. Dans cette mobilisation, perdure l'esprit de la Commune de 1871 et les pensées anarchistes s'épanouissent. En février 1883, les syndicats de menuisiers commencent à lancer des appels à manifestation contre la faim et la pauvreté. Cette manifestation a lieu donc le 9 mars, ralliée par tout un contingent de personnes, notamment des sans emploi. Donc ces chômeurs et ces artisans se dirigent, s'élancent dans un cortège dans les rues de Paris. Ils s'approchent du ministère de l'Intérieur et de l'Élysée, faisant trembler ces institutions, défendues violemment par la police. Et lors de cette manifestation, Louise Michel, la communarde, élève un drapeau noir, un drapeau qui aurait sûrement été utilisé par les Canus en 1831, mais qui, suite à ce geste du 9 mars 1883, devient officiellement l'emblème des mouvements anarchistes et plus largement ouvrier. Louise Michel, en brandissant ce drapeau noir lors de la manif du 9 mars 1883, crée un symbole reconnaissable pour le mouvement anarchiste.
Et on passe maintenant à notre rubrique...
International.
On n'a pas de jingle au Canus.
D'habitude.
Et on commence avec la suppression du permis pour les trans aux États-Unis.
Oui, voilà. Depuis la semaine dernière, l'État du Kansas est devenu le premier État à invalider les pièces d'identité des personnes transgenres. En l'occurrence, il s'agit des permis de conduire qui sont donc les pièces d'identité les plus utilisées aux États-Unis et les actes de naissance. C'est un pas de plus que de simplement interdire d'émettre des documents qui indiqueraient autre chose que le sexe attribués à la naissance, ce qui est déjà grave. Mais là, il s'agit d'annuler rétroactivement des documents légaux. Une mesure qui vient s'ajouter aux 109 autres lois anti-trans déjà passées sur l'année 2025 à l'échelle fédérale et qui ont été recensées sur le site Translégislation. Et malheureusement, cela n'a va qu'en s'aggravant. Un papier est en cours d'examen à Washington visant à créer un programme de thérapie de conversion pour les personnes transgenres dans les prisons. Preuve de plus, s'il en fallait encore, que les États-Unis ont déjà bien les deux pieds dans le fascisme.
Et on passe en Iran, avec notamment l'élection du nouveau guide. Et non, alors ce sera
d'abord la Tunisie. La Tunisie et surtout donc la Global Sumud Flotilla, dont une nouvelle version est en cours de création pour aller se diriger vers Gaza. Donc la Global Sumud Flotilla a vu 5 de ses organisateurs tunisiens se faire arrêter par la police antiterroriste tunisienne. Et depuis plusieurs semaines, ce sont aussi les rassemblements de soutien à Gaza ainsi qu'une manifestation visant à remercier les dockers tunisiens qui avaient aidé lors de la précédente mission qui ont été interdits. C'est un changement inquiétant car jusqu'à présent, Tunis était plutôt favorable à l'organisation de soutien à Gaza. Les instances d'organisation de la flottille tunisienne sont accusées de blanchiment d'argent, de fraude et de détournement, menaçant de geler donc les dons récoltés pour cette nouvelle flottille. Et ces accusations sont interprétées comme une tentative d'enrayer ce mouvement de solidarité. Pour le moment, le projet n'est pas annulé et continue de se mettre en place. Cette flottille est particulièrement ambitieuse car elle devrait rassembler 100 navires transportant 3000 participants venant de plus de 100 pays différents. En plus de transporter, comme à chaque fois, des vivres et des produits de première nécessité, l'objectif est aussi de transporter un véritable hôpital flottant afin de tenter de répondre à l'urgence médicale dans laquelle sont des milliers de personnes à Gaza. Alors que Israël et les États-Unis ne semblent avoir aucune limite dans leurs intentions belligérantes, il est particulièrement important de continuer à exprimer de la solidarité envers toutes leurs victimes et ne pas céder à leur pression. On ne peut donc qu'appeler le gouvernement tunisien à ouvrir les yeux et revenir sur ces tentatives d'entravement.
Et on continue à l'international, mais toujours pas en Iran. Finalement, on a modifié tout l'ordre du monde de sujet. Et on continue avec la Colombie, puisque hier, il y a eu les élections législatives qui ont eu lieu. Donc à gauche, le Pacto Histórico, la coalition de gauche qui soutient l'actuel président Gustavo Petro, reste la première force politique au Congrès avec 23% des voix au Sénat. Et le très à droite Centre démocratique de l'ancien président Álvaro Uribe arrive en deuxième place avec 16% des voix. Le Centre démocratique a en parallèle désigné sa candidate pour les présidentielles lors d'une primaire, Paloma Valencia. Aucun parti n'a obtenu de majorité absolue. Le prochain congrès sera donc aussi fragmenté que le congrès actuel et il prendra ses fonctions en juillet. D'ici là, il y aura les élections présidentielles en mai qui sont aussi un gros enjeu. Un seul mandat étant autorisé par la Constitution, ce n'est pas l'actuel président Gustavo Petro qui se présentera pour la gauche, mais Iván Cepeda, crédité par les sondages de plus de 30% des intentions de vote au premier tour. Et son adversaire le plus redouté, c'est le candidat d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, avocat pénaliste, défenseur de mafieux et de paramilitaires. Donc ça, c'est l'événement d'hier, quand même, le fait que la gauche se conforte dans les résultats aux élections législatives. Et nous, il y a un mois, on avait interviewé une politologue colombienne qui nous expliquait justement un petit peu les enjeux autour du mandat en cours du président de gauche, Gustavo Petro, des élections à venir, des éventuelles interventions impérialistes des États-Unis et des groupes armés en Colombie. On l'écoute tout de suite.
Donc, je m'appelle Valentina Bradbury. J'ai fait des études politiques et je suis analyste politique.
Petro, donc, c'est le premier président de gauche qui a été élu en 2022 en Colombie. Qu'est-ce qu'il défend? Qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en œuvre? Et quels effets ça a eu sur la situation économique et sociale en Colombie?
Bon, Petro, il a fait partie d'un mouvement politique qui s'appelle le M19. Et c'est un mouvement politique qui est né quand il y a eu une fraude pour des élections présidentielles. Et à différence de beaucoup d'autres guérillas, c'était une guérilla urbaine. C'était une guérilla qui avait beaucoup de popularité parce qu'il faisait aussi des actions médiatiques en faveur des plus pauvres dans la ville. Ça a développé un peu d'adhésion dans certains secteurs. Bien sûr, il y a eu d'autres actions comme et l'attaque au palais de justice, et que ça, c'est un événement qui a fait plusieurs morts, mais c'était aussi et à cause de la manière dont les militaires ont réagi et ont géré cette action des guérillas M19. Au début des années 90, le M19 a participé d'un processus de paix avec d'autres guérillas. Donc, ils ont non seulement négocié la paix et laissé les armes, mais aussi une nouvelle constitution, que c'est la constitution de 1991. C'est une constitution qui a certains aspects néolibéraux. Il y a l'introduction d'une ouverture économique, mais aussi beaucoup de droits sociaux et d'autres aspects importants, par exemple les droits collectifs pour les communautés indigènes, pour les communautés noires, mais d'autres droits aussi qui permettent une ouverture démocratique, une majeure participation de la population. Il fait beaucoup référence à ce processus de paix et il fait beaucoup référence à la participation de son mouvement politique dans la construction de cette nouvelle constitution qui a fait toute une réforme de l'État. Petro, il a été dans plusieurs partis de gauche. Il a fait aussi partie de Polo Democratico Alternativo, que c'était le parti de gauche le plus représentatif. Mais il a eu des contradictions à l'intérieur de ce parti et il a dénoncé des actes de corruption. C'était vraiment une figure politique avec une vocation de pouvoir très marquée. Ça a fait beaucoup de tensions avec plusieurs secteurs parce que c'était vraiment, il voulait être candidat présidentiel. Il voulait vraiment le protagonisme de la lutte politique dans le parti. Et il est parti de ce parti Polo Democratico Alternativo. Il a fondé un autre parti. Et bon, il a été aussi maire de Bogota. Il a mis en œuvre des politiques culturelles, des politiques sociales. Par exemple, il a baissé le prix du transport urbain et il a voulu interdire les corridas de toros. Enfin, il a fait plusieurs réformes sociales. Il a voulu vraiment faire une redistribution de la richesse à Bogota. On a mené un processus judiciaire contre lui quand il était maire parce qu'il a voulu rendre public le service qui fait la récollection des ordures. Et donc, on a fait un processus contre lui. On l'a éliminé de la mairie. Il est parti pour faire une action judiciaire dans les organismes internationaux, la CIDH. Et il a gagné. Donc, il a retourné. Et du coup, bon, ça l'a fait encore plus populaire parce que il appelle toujours à la mobilisation des gens et des mouvements pour défendre l'élection de lui comme maire et maintenant l'élection comme président. Et dans la dernière élection, il a gagné. Donc, c'est la première fois qu'en Colombie, il y a un président de gauche. Et son programme, c'était surtout un programme social avec des réformes politiques sociales, surtout des droits des travailleurs, la santé, par exemple. Si bien c'est pas rendre public le système de santé, mais que l'argent de l'État pour la santé va directement aux hôpitaux publics et aux cliniques privées pour que les intermédiaires privés ne prennent pas l'argent et font pas comme des business avec l'argent. Et il a fait aussi une réforme du travail où il a amélioré les droits des travailleurs et il a fait aussi une réforme des retraites. Elle est un peu hybride, parce que, encore une fois, c'est même pas rendre le service de la retraite ou la retraite entièrement publique, mais c'est cotiser une quantité de salaire pour que ça va dans le système public et pour que les plus âgés qui n'ont pas une retraite peuvent avoir une partie de cet argent. Que c'est pas beaucoup, mais pour que au moins les plus âgés qui n'ont pas une retraite peuvent avoir quelque chose de quoi vivre. C'est malheureux, mais il y a beaucoup des erreurs, il y a quelques cas de corruption, mais il a été durant toute cette période fidèle aux programmes sociaux. Il continue et il essaye par tous les moyens de faire passer des lois qui améliorent la vie des plus pauvres, des travailleurs, des femmes qui sont à la maison et qui n'ont pas un travail. Là, il a fait une augmentation du salaire minimum d'autour de 23%, plus ou moins. Donc, c'est une augmentation historique en Colombie. Il a été aussi très critiqué par certains secteurs alternatifs parce qu'il a fait des alliances avec la droite. Et pour pouvoir arriver au pouvoir, pour gagner les élections, pour pouvoir avoir une majorité qui n'est pas absolue au Congrès, qui lui permet de faire passer les réformes. Toutes les réformes, ils ont essayé de bloquer. Il a réussi à faire la réforme des retraites dans le Congrès. Il a eu des majorités. Mais pour la réforme du travail et pour la réforme de la santé, il y a un blocage permanent au Congrès. Il a réussi à faire la réforme du travail. Mais parce qu'il a vraiment pressionné d'utiliser un mécanisme de participation citoyenne, il a dit qu'il allait appeler la citoyenneté pour voter directement cette réforme. Et c'est à cause de ça qu'il a réussi à pressionner le Congrès pour faire passer la réforme du travail. Donc, bon, comme je disais, c'est le premier président de gauche avec un programme vraiment social. Il a fait des réformes sociales qui n'ont jamais été faites depuis les dernières 50 ans ou d'après la vie démocratique en Colombie.
Et les États-Unis de Trump ont directement menacé la Colombie d'une invasion militaire, comme au Venezuela.
D'après toi, c'est quoi les principaux intérêts économiques et stratégiques des États-Unis en Colombie? Et quelles sont les réactions un peu des Colombiens et Colombiennes par rapport à la menace des États-Unis?
Je pense que la Colombie a eu une relation très proche avec les États-Unis. Le mouvement social en Colombie, par exemple, se sont mobilisés à plusieurs occasions parce qu'il y avait des bases militaires, parce qu'il y avait une coopération politique et militaire. Il y a eu aussi une relation, par exemple, des États-Unis sur la formation des militaires pour combattre les guérillas et pour combattre les groupes armés. Donc, historiquement, les gouvernements de droite de la Colombie ont eu une relation de beaucoup de proximité et de beaucoup de coopération militaire, économique et politique avec les États-Unis. Avec Petro, et le discours et la position politique a complètement changé. Donc, dès que Donald Trump est arrivé au gouvernement, il y a eu une première crise avec la déportation des migrants colombiens. Ils étaient avec les mains attachées et ils passaient plusieurs jours, des fois, dans des conditions vraiment pas humaines, pas un bon traitement. Et Petro, il a dit, je vais envoyer l'avion présidentiel parce que ce sont pas des délinquants et c'est des êtres humains. Donc, dès le début, la relation commence à être très tendue entre les deux présidents. Et Trump, il fait toujours allusion au thème de drogue et de trafic des drogues et disons le pouvoir qui commence à avoir les groupes armés en Colombie. C'est aussi les intérêts impérialistes, je pense, basiques de pouvoir avoir une domination politique et militaire sur le territoire. Et Petro, c'est un des présidents qui a adopté une position très confrontationnelle. Je ne saurais pas dire si c'est le pétrole, parce qu'on a du pétrole, on a du gaz, on a d'autres ressources naturelles. Ça, c'est toujours dans les intérêts des États-Unis. On l'a vu avec le Venezuela. Mais je ne sais pas si c'est, disons, la première motivation. Mais en tout cas, je pense qu'il... Ils cherchent vraiment à avoir des gouvernements en Amérique latine qui soient très coopérants avec lui, en qui il peut voir des alliés politiques et militaires. Et surtout avec la relation avec le Venezuela, que là, par contre, je pense que le pétrole, c'est un des ressources vraiment stratégiques. Pour lui, ne pas avoir une bonne relation avec le voisin du Venezuela, c'est aussi un risque. Quand il y a eu l'invasion militaire au Venezuela, la droite plus forte ici, qui est plus l'extrême droite, ils ont applaudi cette invasion militaire. Ils ont dit c'est très bien, se termine la dictature et les Vénézuéliens vont être libres. Mais quand Trump est dans l'avion présidentiel et dit, et le journaliste fait les questions autour de la Colombie, et Trump dit, bon, ça me paraît une bonne idée aussi, quelque chose pareil avec la Colombie. Là, personne en Colombie, même pas l'extrême droite, ont applaudi ça. Tous ont commencé à dire non, 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 nous on va combattre Petro dans les urnes avec les élections. Et parce qu'ils savent très bien qu'une invasion militaire ferait une crise économique pour les secteurs de droite et pour les secteurs qui ont, disons, les entreprises et tout ça. Même la classe moyenne, ils vont avoir peur de ses propriétés, de ses salaires, des savings, de tout ce qu'ils ont acquis tout au long de leur vie. Les indicateurs économiques, ils sont bien en ce moment. Le dollar, il est tombé. Le valeur du dollar a tombé. Le taux de chômage, il est très en bas. Et le salaire minimum a augmenté, donc les indicateurs, l'économie va bien. Donc, quand il a fait cette menace, là, il n'y avait personne vraiment, il n'y avait aucune organisation, aucun secteur qui a dit « oui, c'est le moment d'envahir la Colombie, enlever le président d'ici ». Là, il y avait vraiment très peur. Il y a eu cette conversation entre Petro et Trump qui a calmé un peu les choses.
Il va y avoir des nouvelles élections en 2026, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont un peu les stratégies ou les réactions de la droite et de l'extrême droite par rapport à ce gouvernement de gauche? Est-ce qu'ils ont justement des alliances avec les États-Unis de Trump?
Oui, d'ailleurs, ça c'est un autre problème. Et Petro, en plusieurs occasions, il a dit la droite colombienne se réunit aux États-Unis de façon privée et de façon publique avec la droite des États-Unis pour penser comment vaincre Petro. On ne peut pas faire un coup d'État, non? C'est inconstitutionnel, ce n'est pas légal. Donc la droite colombienne ne dit pas Ah, on est en train de le faire sortir avant que son mandat soit fini. Mais il y a des documents qui ont été publiés qui montrent qu'il y avait vraiment une stratégie en cours, qu'il y avait une stratégie qui s'est développée avec la droite colombienne pour essayer de rendre le pays en crise, de le faire sortir avant que son mandat soit fini. Il y a aussi des maires, par exemple le maire de la ville d'où je suis, Cali, il est allé aux États-Unis, il s'est réuni avec la droite des États-Unis et on sait très bien qu'il y a des relations très proches, politiques, économiques, de la droite colombienne avec la droite des États-Unis, elle est, disons, publique. Surtout parce que le secrétaire Marco Rubio, il est colombien. Il y a des élections le 8 mars, que c'est les élections au Congrès, et il y a l'élection présidentielle en mai. Petro, il a eu aussi plusieurs affectations à son image et à sa popularité, parce que plusieurs des réformes ne passent pas au Congrès, donc on ne voit pas les changements dans la qualité de vie des personnes. Mais comme je disais, durant les derniers mois, la situation économique va bien. Avec l'augmentation du salaire minimum, les gens sont contents. Avec les droits que les travailleurs ont acquis avec la réforme du travail, les gens sont contents. Les prix des nourritures plus basiques comme les œufs, ils sont aussi bas. Donc, en ce moment, durant ces dernières semaines, l'image du président Petro a remonté. Selon les enquêtes, le candidat du président Petro gagne. Cepeda, Iván Cepeda, le candidat et de la gauche en ce moment. Mais il y a un autre candidat très, très fort, que c'est un peu le style de Milei, que c'est un peu le style de Trump, que c'est un peu le style de Bolsonaro. C'est un avocat. Il est de la côte colombienne, la côte du Caraïbe colombien. Les gens, ils sont très expressifs, ils sont très joyeux, ils ont un accent que le reste du pays adore, parce que c'est, on dit, c'est un accent très sexy. Et ce mec, il est très, très charismatique. Il est même très comique. Des fois, je l'entends, et même s'il dit des choses horribles, et il a un discours très fasciste, il dit les choses de façon très comique. Et disons, ça passe pas de façon si horrible parce qu'il est vraiment très, très charismatique. Donc, c'est le deuxième qui a le meilleur résultat dans les enquêtes. Comme c'est un avocat, et il a été un avocat d'une firme très, très grande, il a aussi défendu des personnes qui sont connues en Colombie parce qu'ils ont des business avec le trafic ou avec, par exemple, le Venezuela. Donc, durant ces dernières mois, semaines, il y a eu certains scandales, disons, qui ont sorti sur lui. Et aussi, il n'a pas très clair beaucoup de ses propositions sur plusieurs sujets, sur transition, par exemple, énergétique, sur le système de santé. Donc, il défend les thèses basiques de la droite, le secteur privé, la sécurité, mais il commence à avoir un peu de difficultés pour traiter tous les sujets.
Et juste pour finir rapidement, tu as parlé du fait que Petro, il venait d'un groupe armé. Il y a des accords de paix qui ont été signés en 2016. Depuis ça, est-ce qu'il y a encore des groupes armés en Colombie? Et quel rapport ils entretiennent du coup avec le gouvernement actuel?
Colombie a une particularité, à différence des autres pays en Amérique latine, et c'est la pluralité des groupes armés. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une guérilla qui a essayé de prendre le pouvoir ou qui a pris le pouvoir, mais c'est l'histoire de plusieurs guérillas qui ont essayé de prendre le pouvoir. Certains ont été dans des processus de paix, d'autres continuent en ce moment. En 2016, il y a eu une négociation de paix avec les FARC, que c'était la guérilla la plus grande. Ils ont laissé les armes. Et il y a une partie des FARC qui a dit non, on ne laisse pas les armes, on n'est pas content avec ce processus, avec cette négociation. On ne croit pas dans l'État colombien. L'État colombien ne garantit pas les accords, donc on continue avec les armes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dissidences, las disidencias de las FARC. Maintenant, presque qu'ils ont perdu le nom de dissidence et on les appelle FARC. Donc, c'est presque comme s'il n'y aurait pas eu une négociation de paix en 2016. C'est un des échecs les plus grands de ce gouvernement parce que Petro vient d'un groupe armé, il a fait un processus de paix, il est de la gauche. La gauche a toujours soutenu que c'était important de faire une négociation, que la voie armée, la guerre contre les guérillas, ça menait à rien parce qu'il y a beaucoup plus de morts, la violence devient plus grande. Et il disait que ça allait très vite, qu'il allait très vite faire les négociations avec les groupes armés. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a certains secteurs qui disent non, mais il n'a pas armé un bon groupe de négociation, des gens qui soient vraiment sérieux, qui peuvent être stratégiques. D'autres gens disent non, c'est vraiment que plusieurs guérillas n'ont pas vraiment un intérêt de faire une négociation de paix, de participer en politique. Ils veulent vraiment continuer avec le business de la drogue parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'argent. Et ils ont fait plusieurs attentats contre des civils dans les villes. Il y a beaucoup de personnes, disons, qui ont été mortes. Quand des choses comme ça passent, et ce que Pedro dit, c'est on ne va pas avoir peur, on va continuer à occuper l'espace public, à se mobiliser, à être dans la rue, on ne va pas laisser que la peur nous gagne. Et en ce moment, Pedro, il a déclaré la guerre contre plusieurs de ses groupes armés. Avec l'ELN, et si je ne me trompe pas, les négociations ont recommencé. Mais bon, on est presque à la fin de ce gouvernement et Pedro n'a pas réussi à faire aucune négociation de paix avec les guérillas. Et du coup, ça fait peur un peu parce que s'il y a un gouvernement de droite qui revient, qui gagne les élections, je ne sais pas qui va défendre une voie pacifique. Quand il y avait la droite au pouvoir, c'était toujours la gauche. La gauche civile qui disait il faut négocier, il faut faire il faut utiliser la voie pacifique. Mais maintenant, une grande partie de la gauche est très, disons, énervée contre les groupes armés parce que comment est-il possible, disent certains figures politiques de la gauche, qu'il y a un gouvernement de gauche et que ces groupes armés continuent à faire et des attentats ou continuent dans le trafic de la drogue quand c'est le moment de négocier.
Oui, parce que ces groupes armés, ils défendent un projet politique.
Oui, ils défendent un projet politique. Ils disent défendre un projet politique. Mais c'est vraiment chaque fois plus difficile de voir quel est le projet. L'origine de la création de guérillas, c'était le thème de la terre. C'était la dispute pour la terre. Mais on a un gouvernement qui est en ce moment, c'est le gouvernement qui a rendu beaucoup plus de terres aux paysans. Ça, c'est aussi un des victoires de ce gouvernement qu'ils peuvent dire et que les gens disent. Et donc, du coup, ce n'est pas très compréhensible la continuation des guérillas à travers la voie armée.
Et donc, vous êtes toujours sur le Canus Info du lundi 9 mars. Et on vient de finir cette interview sur la Colombie. Et on passe maintenant, toujours à l'international, à l'Iran.
Et oui, l'Iran reste sous le feu d'Israël et des États-Unis. Le nombre de personnes tuées ne cesse d'augmenter. Les États-Unis et Israël bombardent en prétextant faire tomber le régime. En attendant, nous assistons au démantèlement de tout un pays à travers des vidéos qui nous parviennent. Nous rappelons que parallèlement, le Liban est également toujours sous les feux de l'État d'Israël qui détruit toute la partie sud du pays. Trump annonce déjà qu'il a gagné la guerre, montrant à quel point la communication du président américain est plus importante que la réalité. Parce qu'après 10 jours de frappe, le régime criminel iranien est toujours debout, bien qu'il y ait des signes d'instabilité. Donc du côté du régime totalitaire de la révolution islamique, il y a du mouvement. Déjà hier, dimanche 8 mars, Mojtaba Khamenei a été nommé guide suprême, et ce à la suite de son père, le fameux imam. Ce qui est assez en contradiction avec ce qu'avait dit Khamenei père, à savoir que son fils n'était pas censé prendre sa suite car la révolution islamique avait renversé une monarchie et ce n'était pas pour suivre le même fonctionnement. Autre signe de grande déstabilisation, le président Massoud Pezeshkian affirme que des négociations sont en cours avec les voisins, les pays du Moyen-Orient qui ont été touchés par des frappes iraniennes à cause de leur lien avec les États-Unis. Il y a eu même des sortes d'excuses pour ces frappes. On peut se demander d'où vient ce revirement de positionnement et est-ce que c'est le signe de faiblesse de la part du régime. Du côté des Kurdes iraniens qui subissent une grande répression, il y a des groupes politiques interdits, relativement soudés et qui possèdent des branches armées, probablement d'un millier de personnes. Pour ces groupes kurdes, la possibilité d'atteindre une forme d'autonomie démocratique sur leur terre pose la question d'une insurrection qui pourrait faire flancher aussi le régime.
Des groupes kurdes qui sont soutenus de manière dilettante par les États-Unis, qui ont lâché les groupes du Rojava récemment. Le risque est grand pour ces groupes kurdes face à un régime criminel et aux fausses promesses des États occidentaux. Quoi qu'il en soit, on continue de vous parler de cette guerre et de suivre les mouvements du peuple iranien. Revenons un peu sur les mobilisations hier en France, à l'occasion du 8 mars. On pouvait voir et entendre des militantes féministes, souvent issues de la diaspora iranienne, défiler dans les cortèges pour rappeler que les femmes en Iran sont à l'avant-garde de la mobilisation et rappeler qu'il s'agit d'une mobilisation internationale. Si l'on veut respecter la puissance de ce message féministe international, nos regards doivent se tourner et soutenir les militantes de ces pays en guerre qui luttent pour la survie de leurs idées et de leur peuple.
Et pour continuer sur le 8 mars, on fait une petite pause musicale avec Bonne Fête de Juste Chani.
J'ai une question pour tous les homo sapiens. Mon papa m'appelait princesse, j'appelle daddy mon prince. Est-ce que c'est de l'inceste? Je les intéresse, est-ce qu'ils savent que je suis pas terrestre? Bijoux noir, diamant céleste, incrusté dans mon squelette. Ils aiment trop les paillettes. La vie d'artiste en vrai c'est la reste. On investit pour que cela cesse. Quand on l'assassine c'est la fête. Hido hate craché par la window. Cache mon jeu tout comme une bimbo. J'ai l'héritage des griots. Tout niqué je crois que c'est mon indo. Oui je suis un peu toqué en tout cas. J'ai mis tout de côté j'aime bien la vie de rockstar. Plus jamais je remets le costard. Une heure je fais la malle. Deux heures je fais un malaise. Trois heures que je me ramène. La dalle je fais des ramen. Oh l'ambiance. Mon prénom c'est Briance. Il a dit on se fiance. Je pense d'abord aux finances. Ils misent tous sur AMOUR. Moi j'ai fui il y a longtemps. Je suis pas populaire. Y'aura pas de Valentin. J'ai scanné ton mec sur Yuka. Mauvaise qualité. Boss lady c'est la direction. La mentalité. Ils parlent sur moi. C'est chaud comment. J'suis leur idole. Rassure-toi. J'suis pas méchante. J'suis juste mignonne. J'suis sous l'eau. Là faut que j'm'isole. Au Four Seasons. Dans mes rêves. J'suis saucissonné. Par season. Là je veux m'aérer, partir ailleurs. Bébé je suis pas douce, non je suis aérienne. Je ferai ton malheur, mon grand souffle un coup. Ça se voit t'es tendu. Plus t'insistes, plus je te laisse en vue. Le monde est bresson, moi je resplendis. Et je reste en vie. Oh l'ambiance, mon prénom c'est Briance.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu. Radio Canu, on brouille de plus en plus les pistes. Ce n'était pas Bonne Fête, mais Briance de Juste Chani. Et on passe tout de suite au local.
Voilà, avec un petit format micro-pancarte de la manif de hier à Lyon. On l'écoute tout de suite.
Salut, tu veux bien me lire ce qu'il y a sur ta pancarte, s'il te plaît?
Bah oui. Si t'es pas antifasciste, c'est quoi? Et j'ai mis la réponse. Tu la vois?
Ouais.
Oh, je veux la dire. Une grosse merde brune.
De l'autre côté aussi, on peut le voir.
Même question. Si t'es pas féministe, t'es quoi?
Et tu peux me dire pourquoi t'as décidé de venir aujourd'hui à la manif?
Le droit des femmes, la montée de l'extrême droite en France, tout ça, je trouve ça très grave. Et ça fait du bien de se rassembler, ça donne la force pour lutter. D'avoir des gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes idées, les mêmes problèmes, ça motive.
Je tire ta pinte, pas ta crampe.
On est une association qui s'appelle Femmes Chefs qui vient juste d'être lancée en novembre. Donc seulement 4 mois et on a déjà 61 membres. On a dû bloquer parce qu'il y a trop d'engouement. On rouvre les adhésions à la fin de l'année. Et on est que des femmes qui travaillent en cuisine, qu'on soit sommelière, chef de cuisine, pâtissière, en service, en bar, en coffee shop. On s'est toutes réunies pour essayer de revoir les conditions de travail et faire évoluer ça.
C'est la sororité en cuisine. Attends, tu veux un slogan plus drôle?
Ouais.
Ma vive et mon couteau. Moins de macho, plus de nacho.
Merci.
Avec plaisir.
Merci à vous.
En français, c'est pas de faf dans ma fouf. Et en anglais, c'est no facho in a fouf.
Et je peux te demander aussi pourquoi tu as décidé de venir aujourd'hui?
Parce que c'est super important pour moi de continuer à se battre pour les droits des femmes partout dans le monde. Et en ce moment, surtout à Lyon, il y a un vrai combat. Donc c'est super important.
Brûler le patriarcat.
tout simplement. Et les forêts, nos jambes, les murs, nous ne raserons plus rien. Pour moi, il n'y a pas de sujet, 8 mars, il faut qu'on soit dans la rue. Il y a encore tellement d'inégalités, que ce soit vraiment en termes d'accès aux droits, mais aussi plus dans le fait de pouvoir être qui on veut. Moi, je suis personne queer, donc pour moi, c'est une évidence d'être là pour continuer à lutter et voilà, à défendre nos droits, quoi.
Féminisme intersectionnel, sinon c'est du développement personnel.
Palestinienne, soudanaise, iranienne, congolaise, irakienne, libanaise, syrienne, libyenne, afghane et toutes les femmes du monde, on vous entend. Pour moi, c'est important pour toutes les inégalités que toutes les femmes vivent dans le monde. Et pour exprimer ma colère, parce qu'à 18 ans, j'ai déjà vécu beaucoup d'expériences négatives avec les hommes et j'en ai marre. Donc je veux exprimer ma colère. Et voilà.
Les bombes ne libèrent pas contre l'impérialisme américain qui croit qu'ils vont pouvoir libérer les pays mais qui en réalité enferment les peuples de plus en plus.
Colonialisme. Et de l'autre côté, a écrit USA, Israël, criminel. Je suis venue pour marcher pour les femmes de partout dans le monde qui se battent contre toutes sortes de batailles, que ce soit le colonialisme, l'impérialisme, le sexisme, le racisme et toutes les autres luttes.
Alors la pancarte s'écrit « Pas de féminisme sans les putes, les sans-abri et les trans ».
Némésis, casse-toi, lion et antifa. Némésis, casse-toi, lion et antifa.
Voilà pour ce petit florilège des messages aperçus dans la manif pour le droit des femmes hier dans les rues de Lyon, ainsi qu'un petit tour d'horizon des préoccupations des féministes pour l'année 2026. Comme vous l'avez vu, cette année, on s'inquiète beaucoup du fascisme et du colonialisme.
Et après ça, on parle maintenant de la grève au lycée Samba à Vénissieux.
Oui, il y avait plus de 50% de grévistes aujourd'hui, tout personnel confondu, donc vie scolaire avec CPE et assistante d'éducation, prof, personnel administratif, agent de région, pour protester face au manque de moyens et face au mépris de la hiérarchie qui se fait la courroie de transmission des politiques de destruction de l'école publique. Notamment, la direction du lycée Seguin-Samba à Vénissieux s'est permise de convoquer les assistants d'éducation 48 heures après un mouvement de grève massif qu'ils avaient organisé, les AESH et les AED, en décembre, où il y avait eu 100% de grévistes chez les AED dans ce lycée. Donc la direction les a convoqués et menacés de non-renouvellement ou de non-CDIsation pour avoir participé à cette grève. Et puis depuis le début de l'année scolaire, c'est aussi la dégradation des conditions de travail qui est mise en cause. Donc il y a un poste d'infirmière non pourvu, il y a un demi-poste de CPE supprimé, des classes surchargées et des personnels région non remplacés, ce qui signifie des conditions de scolarisation dégradées pour les élèves et des conditions de travail qui génèrent de la souffrance pour tout le monde, assorties de nombreux incidents et arrêts de travail. Donc c'était la grève aujourd'hui, il y a une délégation qui est reçue ce soir au rectorat et une heure d'info syndicale va être organisée dans les jours qui viennent pour décider des formes de la reconduction de la grève, avec notamment peut-être se joindre à un appel à la grève lancé par le CLEP, le collectif pour les lycées en éducation prioritaire, le mardi 17 mars. Ce collectif y réunit plusieurs lycées des quartiers populaires de l'Est lyonnais, Vénissieux, Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Saint-Priestre, et aussi des lycées de région parisienne. L'objectif principal, c'est de réclamer le retour de l'éducation prioritaire pour les lycées avec des moyens nécessaires, alors que la tendance actuelle est à l'abandon des lycées populaires au profit d'un système d'éducation publique à deux vitesses. Donc en gros, le CLEP revendique des seuils fixes et clairs concernant les effectifs par classe, 20 maximum en seconde et en général ou technologique, 24 élèves maximum en première et en terminale, 12 élèves maximum en CAP, 15 élèves maximum en 3e prépa métier et en bac pro, et puis des moyens supplémentaires pour dédoubler les classes, réaliser les projets pédagogiques des élèves et des embauches massives de personnel de vie scolaire, donc CPE et AED, de personnel du pôle médico-social, infirmiers, assistants sociaux, médecins scolaires, psychologues, des moyens pour l'éducation socio-culturelle et des moyens pour la rénovation du bâti et des équipements avec la mise aux normes, puisqu'il y a un gros sujet dans pas mal d'établissements, aussi sur l'amiante, dont on vous parlera peut-être dans des prochains Canu Info. Voilà donc peut-être une prochaine grève de plusieurs lycées le 17 mars.
Et puis par ailleurs, il y a une manif qui se prépare pour le 14 mars.
Oui, donc on va lire le texte d'appel à la manifestation de ce samedi 14 mars, une manifestation antifasciste et antiraciste à la suite de la mort du militant néofasciste à Lyon, une date qui était initialement portée par la marche des solidarités qui se mobilise chaque année, mais qui cette année a été rejointe par de nombreux collectifs, associations et partis, notamment face à la montée du fascisme et aussi en raison du contexte politique. Je vais donc lire cet appel qui se veut consensuel, large, notamment pour être unitaire. Donc le titre c'est « Lyon sera toujours la capitale de la résistance au fascisme, appel pour une grande marche citoyenne antiraciste et antifasciste ». Nous vivons à Lyon, nous y travaillons, nous y habitons, nous y avons nos proches. Nous sommes des organisations engagées pour la défense des droits humains, des droits des migranteux et des personnes sans papier, des droits des travailleuses et de toutes les personnes victimes de discrimination, pour la libération des peuples opprimés et pour l'émancipation collective. Nous refusons le récit politique et médiatique qui s'écrit dans notre ville. Nous refusons que la haine, le racisme et la violence deviennent un projet politique pour Lyon. Nous subissons et dénonçons la violence de l'extrême droite à Lyon, comme partout en France et dans le monde. Crimes racistes, agressions, brutalité. Elle impose ses idées en divisant, en désignant des boucs émissaires, en opposant les habitants eux entre elles, en faisant croire que nos difficultés viendraient des plus précaires, des migrants eux, des musulmans eux, des juifs juives, des personnes racisées ou LGBTQIA+. Lyon est terre de résistance, ville de Jean Moulin, Lucie Aubrac et de Sabine Zlatin. Elle porte en elle l'antifascisme. Animée par des valeurs de solidarité, d'accueil, de liberté et d'égalité pour toutes et tous, elle n'est pas et ne doit pas devenir une ville de haine et d'exclusion. À l'heure où l'antifascisme est disqualifié et criminalisé, à l'heure où des groupuscules néo-nazis défilent dans nos rues, attaquent les locaux d'organisations syndicales, politiques ainsi que des mosquées et agressent en toute impunité, à l'heure où l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour un militant fasciste, où notre gouvernement ainsi que de nombreuses responsables politiques et médiatiques normalisent ces idées mortifères et criminalisent celles et ceux qui résistent, faisons front. Nous appelons à un large front antifasciste populaire qui refuse les divisions et témoigne de la force de notre union et de notre solidarité. Nous appelons toutes les personnes et organisations attachées à la légalité et à la dignité à se joindre dans la rue samedi 14 mars 2026 pour une grande marche citoyenne antiraciste et antifasciste à l'appel de la marche des solidarités. Donc voilà, ça c'était le texte d'appel. Donc la manif, c'est rendez-vous samedi à 14h30 à Bellecour. Et puis il y a aussi un autre texte d'appel pour un cortège antifasciste radical lors de la manif qui devrait circuler prochainement. Donc rendez-vous dans la rue samedi.
Et on passe tout de suite à une petite pause musicale avant notre dossier.
Esto es el perreo del migrantecito papi. Esto es el perreo del migrantecito papi.
La police est suprémaciste transmise aux gilets.
Les salauds.
Je le vois plus blanchi que neige comme Balkany. Plus souvent fumé que futé, c'est ma destinée.
C'est ça, oui.
Vu que les coffres croient que des mythos. Je mytho, je vais ce qui fait la victime. Assure mes airs qui parlent le faux. Avoue le vaut mieux la vie que la morale ou la vérité. La vérité, c'est que mes faux sont sans défaut. Et que c'est le proto qui me fait glousser. Pas les propos sans comme un coquin, les manigances, ça me fait kiffer. Peut-être juste parce qu'on s'ennuie ici.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canus Info. Vous venez d'écouter un petit extrait de L'appart est trop petit de Elon et Chip Jewels. Et on passe tout de suite à notre dossier.
Et oui, en ce week-end de 8 mars, donc journée internationale du droit des femmes, on accueille aujourd'hui un collectif qui a notamment mené une action d'éther ce vendredi. On accueille Germie, qui est membre du collectif Solidarité entre femmes à la rue, qui vient donc nous parler de l'occupation victorieuse d'un bâtiment vendredi dernier. Bonjour Germie, et merci d'être venue.
Merci beaucoup Tophie.
Alors peut-être pour commencer, tu peux nous présenter un peu le collectif Solidarité entre femmes à la rue, depuis quand il existe, comment vous vous organisez, tout ça.
Ok, moi c'est Germie, je fais partie du collectif Femmes à la rue et je viens par ma modeste voix représenter le collectif Solidarité entre femmes à la rue qui est SUPIE, ça fait de cela 3 ans. Et depuis ces 3 ans, on a eu pas mal de victoires et pas mal de défaites. Donc, ça existe depuis 3 ans et nous continuons à se battre, à se mobiliser et s'entraider.
Et donc, c'est un collectif qui est composé de femmes qui sont en galère de logement, c'est ça?
Oui, c'est un collectif composé rien que de femmes. Et nous siégeons à la Bourse du Travail le mardi de 17h30 à 20h. Et les hommes ne sont pas autorisés, c'est rien que les femmes qui sont dans la rue et qui viennent au collectif.
Et vous vous organisez entre femmes, notamment parce que la situation des femmes à la rue, elle est spécifique. Vous rencontrez des problèmes et des galères particulières. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, effectivement, à la rue, les femmes, nous rencontrons tellement beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que, on est exposé à beaucoup de risques, des viols en particulier. Il y a beaucoup de femmes dans la rue qui ont été violées. Il y a des moments qu'on traverse aussi tellement difficiles. Par exemple, si on est dans nos périodes des femmes, c'est vraiment compliqué pour nous de trouver un coin où se laver, où on peut se changer. Mais avec ça, ça ne nous empêche pas de continuer à vivre. Et ce qu'on traverse à la rue, on ne peut pas souhaiter cela à quelqu'un. Parce qu'il y a tout dans la rue. Des fois, tu es dans ta tente, tu penses que là, tu es peut-être un peu protégé, mais non, après, tu te retrouves en train d'être et te faire violer. Et quand tu pars à la police, tu déposes peut-être une plainte, on va classer sans suite. Parce que le violeur, tu n'as pas son nom, tu n'as pas l'identité. On te dit carrément qu'on ne peut rien faire parce que il n'y a pas l'identité du violeur. Donc la vie des femmes à la rue, c'est vraiment pas facile du tout. Et en plus, si tu as un bébé encore, ça devient encore plus compliqué. Parce que toi seule, tu peux esquiver, tu peux te cacher de temps en temps, mais avec un bébé, elle va pleurer, il faut lui donner à manger, il faut faire ceci. Donc c'est ça qui pousse beaucoup de femmes à se prostituer pour prendre soin de leurs enfants.
Et en plus de ces situations-là que vous rencontrez, il n'y a pas spécialement de place d'hébergement ou d'accès au logement pour vous, c'est ça?
Non, il n'y a pas assez de place parce que quand tu appelles le 115, ils ne te répondent pas tout de suite. Par semaine, tu peux avoir la chance de les avoir une fois, mais tu peux compter le nombre de femmes que le 115 peut prendre par semaine.
Et du coup, face à ça, face au manque de places d'hébergement, de logement et aux situations que vous vivez dans la rue, vous menez de nombreuses actions depuis plusieurs années, notamment des actions d'occupation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces actions d'occupation que vous menez?
Oui. Manque à ces appels que le 115 ne nous loge pas, on s'organise à la Bourse du Travail. On s'organise de 17h30 à 20h, on parle des occupations. Mais avant de faire une occupation, on se dirige toujours vers la mairie. Avec nos banderoles en criant « Un toit, c'est un droit ». On demande d'abord l'autorisation. Eux, ils nous proposent de nous loger, mais après, ils nous abandonnent. La mairie, la préfecture, c'est toujours la même chose. Avant que nous, on passe à l'action, on passe d'abord par eux. C'est quand eux, ils ne nous répondent pas que nous, on cible les bâtiments vides qui sont habitables et on part squatter les bâtiments.
Et du coup, sur ces occupations-là, vous avez occupé différents types de lieux, des fois des gymnases, des fois d'autres lieux. Parfois, c'était victorieux, parfois, c'était vous avez été expulsé. Est-ce que tu peux raconter un peu ces différentes occupations?
Oui, avant mon arrivée, il y avait déjà eu deux victoires. Les femmes du CCO et celles qui ont été logées à la maison des sœurs. Là, je faisais pas encore partie du collectif. Mais quand moi je suis arrivée, nous on a fait un premier occupation au gymnase de Perrage qui a été on a été expulsé tout de suite. Et on a fait notre deuxième occupation à Belcon, toujours dans un gymnase. Et là-bas, franchement, l'expulsion était catastrophique et très, 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 très musclée. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup... Il y avait d'enfants qu'on les portait par le cou et les pieds traînaient au sol. On les jetait dehors. Il y avait les femmes qu'on tirait au sol. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai été déshabillée de la tête aux pieds. Et j'ai fait une fausse couche cette même nuit. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment très... C'était trop... C'était plein d'émotions et trop triste pour nous.
Beaucoup de répression, en tout cas.
Et la police est venue comme s'ils venaient à... Comme s'ils venaient pour les terroristes et pas pour des femmes. Nous, on n'avait ni âme, on n'avait rien, on avait juste notre voix avec laquelle on criait. Mais eux, ils sont venus avec des armes cagoulées et tout. Et ils ont exercé la pression, la force sur nous pour nous faire expulser de ces gymnastes. Mais malgré ça, on n'a pas abandonné. On a continué. Jusqu'à un jour, on est entré dans le bâtiment du Grand Lyon Habitat, toujours à Kerloin. Et là, on a eu cette victoire qu'on a gagnée, on est resté là. Et après, ils nous ont relogés. Ils ont relogé des autres à Carton, à Givor, un peu de partout. Mais là, au moins, c'était une victoire. Et d'autres femmes sont relogées. Et c'est trop bien pour nous.
En tout cas, de nombreuses luttes. Et puis là, une dernière occupation qui a commencé donc vendredi et qui, pour le moment, est victorieuse. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée un peu l'action? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues vous soutenir? C'est quoi le bâtiment? Quel est le propriétaire, etc.?
L'action de vendredi, ça a été une action qu'on a préparée comme d'habitude. Parce que quand on répète les bâtiments vides, on ne met pas le nom du bâtiment, on ne met pas l'adresse du bâtiment dans le groupe. Parce que nous, on fonctionne par le groupe. Et on a aussi un Instagram, on a un Facebook. Donc quand on repère un bâtiment comme ça, on ne met pas l'adresse dans le groupe, de peur des représailles. Donc on garde l'adresse pour nous. Et on fait nos réunions, on s'est dit comment ça va se passer. On a fait d'abord, on s'est regroupé à la place Guichard. Et à 15h30, on est allé à pied. Arrivé, on a ouvert le bâtiment, on est entré. Et là, on est resté dedans, on a commencé à crier. Un toit, c'est un droit, un toit, c'est un droit. Et il y a d'autres qui étaient dehors, d'autres qui étaient à l'intérieur. Parce que là, on avait vraiment besoin du soutien. Pour nous soutenir, parce que c'est un bâtiment qui est placé carrément dans le centre-ville, dans le cœur de la part Dieu. Donc on avait vraiment, vraiment beaucoup besoin de beaucoup de soutien, ce qui a été fait. Et c'est pour ça que nous, on a gagné ce bâtiment. Et dans ce bâtiment, présentement, il y a 180 familles qui ont été logées. Et il y a encore 90 autres familles dans la liste d'attente qui attendent toujours être logées dans ce bâtiment. Parce que le bâtiment contient 35 appartements et 6 étages.
Ok. Ouais. Et tu disais que c'était un bâtiment de la métropole, c'est ça?
Oui, ça appartient à la métropole.
Ok. Et donc là, pour que l'occupation elle puisse perdurer au mieux, comment on peut vous aider? De quoi vous avez besoin sur le lieu? C'est quoi un peu la suite de l'occupation?
Présentement, dans le bâtiment, on a franchement besoin de l'eau, de l'électricité, des matelas et des couvertures pour l'instant. Parce que le bâtiment, c'est bien évidemment, comme ce n'était pas habitable, il y a beaucoup de travaux à faire. Par exemple, la porte il n'est pas fermée, il manque la clé, il manque tout. Et en haut aussi, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douche. Donc, il nous faut vraiment de l'aide pour nous aider à rétablir de l'eau, du courant.
Ok, donc toutes les personnes qui ont des compétences en plomberie, électricité, elles peuvent venir vous voir et elles seront bienvenues pour vous aider.
Elles seront la bienvenue pour nous aider. Nous, on est là et il y a toujours des gens dans le bâtiment. Donc, si vous êtes là et que vous avez et que vous voulez nous aider, vous venez nous voir à la place. C'est 25 Place des Milans. Merci.
Puis j'imagine qu'il y a aussi toutes les informations sur votre Instagram qui est collectif Solidarité entre femmes à la rue, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est bien ça.
Et peut-être une dernière question pour finir. Vous faites aussi un film en parallèle pour raconter l'histoire du collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment on peut soutenir aussi éventuellement ce film?
Ben, moi, je dirais que ça, c'est la meilleure partie de notre histoire. Parce que dans ce film, on raconte toute notre vie, tout ce qu'on a traversé depuis le pays jusqu'ici, depuis tous les pays, parce qu'on est plein de femmes de tous les pays. C'est pas seulement un seul pays, c'est tout. C'est plein de pays qu'on est regroupés. Donc, ça raconte un peu des histoires de nos pays. Ça rencontre tout notre parcours ici. Donc, ce film-là, c'est vraiment riche en émotions et riche en
On va peut-être pleurer un petit peu.
On va aussi pleurer un petit peu. Et notre film, on espère franchement que l'opéra pourra accepter à...
Ce serait magnifique pour une première.
L'avant-première.
En attendant, on peut faire des dons, c'est ça, pour soutenir le film?
Oui, en attendant, on attend les dons pour le film parce qu'on est bloqué pour la fin du film.
Et tu sais où est-ce qu'on peut faire un don? S'il y a un site, un lien, quelque chose?
Oui, il y a un site, il y a un Instagram et un autre mail sur l'Instagram. Il y a le mail aussi sur notre Facebook. Le WhatsApp, non, je pense pas, parce que le WhatsApp, c'est pour les groupes de femmes. C'est juste par Insta et Facebook.
Ok. On pourra remettre les contacts sur notre audioblog.
Okay. Mais en tout cas, bravo pour cette occupation et courage pour la suite des travaux. Et on suivra votre occupation sur les prochaines semaines à venir. Merci.
Merci à vous.
Merci. Et pour finir, très vite, juste trois petits rendez-vous à l'agenda, puisque demain, comme tous les mardis maintenant, c'est les cantines incroyables, enfin les incroyables cantines, pardon. Oui. C'est à partir de 11h30 jusqu'à 14h30 à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff. Donc, c'est une cantine en soutien à différents squats et collectifs. Il y a trois façons de payer, 5 euros, 10 euros ou 15 euros.
Et c'est excellent.
Et mercredi, à 19h au Clameur, donc aussi à la Guillotière, le clip comité de quartier de la Guillotière lance sa première gazette. Venez vous arracher le premier numéro de la gazette du clip mercredi soir.
Et puis donc, samedi, c'est la marche des solidarités à Lyon. Le rendez-vous, c'est à 14h30, place Bellecour.
Et on vous laisse avec J'aime pas lire, la prochaine émission. Et le Canus Info, donc l'émission d'actualité en non-mixité, revient dans un mois.
Bonne soirée!